Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un instant, des idées de lecture. Tout d'abord avec les écrivains Philippe Génada et Véronique Ovaldé. Ils sont deux des invités du recueil de nouvelles 13 à table, édition 2018. Bernard Lu les a rencontrés. Nous découvrirons ensuite le premier livre jeunesse de Michel Bussy, un conte espiègle et tendre intitulé « Les chroniques du réveil matin ». L'auteur, connu pour ses polars, nous le présentera au micro de Laurent Marsic. À suivre, les confidences des acteurs Annie Dupéret et Bernard Lecoq au micro d'Isabelle Morini-Bose, qu'ils forment depuis 26 ans le couple star de la saga de TF1 « Une famille formidable ». L'ultime saison démarre donc ce soir. Et puis nous écouterons un peu de musique classique. Charlotte Latour nous présentera un nouvel enregistrement des trois dernières symphonies de Mozart.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Comme les chanteurs, les écrivains se mobilisent pour les Restos du Cœur et pour la 5e année consécutive. Plusieurs d'entre eux participent au recueil de nouvelles 13 à table. Il est publié chez Pocket.
Oui, et au-delà de l'aspect solidaire, chaque livre vendu 5€ permet de distribuer 4 repas. 13 à table est devenu un rendez-vous annuel très attendu par les lecteurs. Sorti il y a 10 jours, le recueil se classe déjà dans les meilleures ventes. Parmi les auteurs qui signent bénévolement cette 5e édition, je cite alors pas toutes et tous, hein, mais quelques-uns, Leïla Slimani, Tatiana Dronet, Alice Zénitaire, Agnès Martin-Lugan, Maxime Chattam, Romain Puertolas, ou encore Véronique Ovaldé et Philippe Génada, l'auteur de La Serpe, prix Femina 2017.
Je passe mon temps à me dire, je fais pas assez, je fais pas grand-chose, je pourrais aider plus, ou je pourrais faire ceci ou cela. Là, l'occasion tombe du ciel, se présente. On peut apporter sa toute petite pierre là-dedans. Ça correspond en plus à ce qu'on aime faire, hein. Donc j'étais à la fois content, fier, pouvoir faire quelque chose utile, enfin, ouf.
On est des citoyens lambda et donc on a une relation à la fois admirative pour toute cette œuvre-là, mais souvent on se dit oh, j'ai pas fait assez. Et moi, ce que je fais le plus facilement, c'est évidemment donner quand j'ai fini mes courses au supermarché, au moment où les restos passent. Puis je me dis bon, c'est pas beaucoup, j'ai pas de temps à donner, donc vous êtes souvent en train de vous poser plein de questions. Et là, tout à coup, quand on vous propose de participer à ce travail collectif, à ce travail solidaire, c'est très très agréable. Comme tu dis, Philippe, bah, c'est ça que j'aime faire, mais c'est ça que je sais faire aussi.
Et dans 13 à table, que nous racontent Véronique Ovaldé et Philippe Génada.
Alors, pour Philippe Génada, comme dans ses derniers romans, il part d'un fait divers et d'une femme dans sa nouvelle intitulée Une vie défaite. Cette femme, c'est Meg Stenel. C'était la célèbre maîtresse de Félix Faure, dans les bras de laquelle, vous savez, le président de la République
la
de l'époque a rendu l'âme. Oui.
Oui, moi je pense depuis une bonne dizaine d'années à écrire quelque chose sur cette femme. Et puis là, je me suis dit... pour moi, de manière très très personnelle, c'est une sorte de beau geste, personne n'est au courant, mais j'ai sacrifié un livre donc pour écrire cette nouvelle. Oui, madame, oui.
Mais c'est pas rien, ça.
Et puis, bah, au-delà de ce qui l'a rendu célèbre, donc cet épisode avec Félix Faure, on découvre que toute la suite aussi est extrêmement romanesque.
Ah oui, oui, non, c'est incroyable. Déjà, sur Félix Faure, on pense que c'était une prostituée comme ça, alors que non, c'était quand même une femme du monde, une mondaine, quoi. Et puis, alors après, on découvre, enfin, moi, j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années, donc elle a très probablement tué son mari et sa mère. Elle a échappé à la prison à perpétuité, ou pire, par je ne sais quel miracle, qu'elle a fini en Angleterre mariée à un lord. Elle a une vie s'il y a une vie romanesque, alors un peu glauque, mais s'il y a une vie romanesque, c'est celle de Meg Stenel.
De son côté, Véronique Ovaldé raconte dans Je suis longtemps restée une clématite, une ado soumise à un père surprotecteur, un personnage pas si fictif qu'on pourrait le croire.
Il y a, pour moi, très souvent dans les nouvelles, une tentation autobiographique, chose que je fais très très peu dans mes romans. Et là, en l'occurrence, nous avons affaire à une petite jeune fille qui a un père qui est une sorte de visionnaire apocalyptique. Eh bien, c'était mon cas. Je vivais avec un visionnaire apocalyptique. C'était mon père, et donc c'était une façon de vivre à la marge. C'était extrêmement difficile de vivre de cette façon-là. Et en écrivant pour les Restos du Cœur, je me suis dit, mais en fait, c'est aussi toute cette histoire des gens qui sont à la marge et la difficulté que c'est d'être à la marge quand tu es une toute petite jeune fille. Et donc, c'est ça qui m'intéressait aussi beaucoup dans cette histoire. C'est pour ça d'ailleurs que le titre est un titre à la première personne. C'est je suis longtemps restée une clématite. Mmh. Parce qu'en fait, c'est une clématite, c'est une plante guimpante accrochée à un tuteur et qui va se déployer, s'émanciper. Donc, il y avait toute cette petite chose-là dans ma tête à propos du personnage de Perpétua Le Falaire. Beaucoup d'éléments, en fait, personnels.
Véronique Ovaldé et Philippe Génada se connaissent depuis longtemps et ils étaient donc impatients de se lire.
Quand j'ai lu la nouvelle de Véronique, et ça on peut s'en apercevoir si on la connaît, je me suis dit, ah, elle a bossé, elle s'est impliquée dedans, parce que moi je la vois dans cette nouvelle, quoi. Donc, et je sais les réticences, mais la prudence qu'elle a à trop s'impliquer directement dans ses textes, donc je me suis dit, oui. Elle y est allée, quoi.
L'heure des aveux.
Ah bah oui, mais voilà, non, mais c'est ça qui est amusant aussi de faire lire nos textes quand on connaît très bien les auteurs. Donc là, je savais bien que Philippe verrait tout ça. Tout comme moi, j'étais heureuse de retrouver Philippe. Je savais pas que c'était une dame que tu voulais suivre dans un roman, mais c'est vrai qu'elle ressemble tellement à toute une magnifique femme fatale et qui ont des vies à la fois terribles et tragiques et en même temps pleines de panache. Finalement, c'était une femme pour toi.
On reste là-dessus, c'est parfait.
Elle est extrêmement sympathique, cette complicité entre les deux auteurs.
Oui, oui, oui. Alors donc, Véronique Ovaldé, Philippe Génada participent donc au recueil de nouvelles 13 à table, publié au profit des Restos du Cœur, et c'est chez Pocket.
Merci beaucoup Bernard Lehu. Alors parmi les auteurs qui, par le passé, ont participé au fameux 13 à table, eh bien figure aussi Michel Bussy, et justement Laurent Marsic, bonjour.
Bonjour.
Vous avez eu un gros coup de cœur pour son dernier recueil de nouvelles. Première incursion de Michel Bussy au Rayon Jeunesse, son livre s'appelle Les Contes du Réveil Matin, et c'est aux éditions Delcourt.
Oui, et quand Michel Bussy prend la plume pour les enfants, cela donne un livre d'une infinie tendresse et d'une espièglerie savoureuse, avec un personnage, un petit garçon baptisé Corentin. Alors, c'est pas un enfant comme les autres, parce que Corentin a un don.
Corentin était un petit garçon curieux. Tous les petits garçons sont curieux, me direz-vous. Vous avez raison, je devrais plutôt dire Corentin était un curieux petit garçon. Curieux dans le sens où il n'était pas seulement étonné, mais aussi étonnant. Différent, si vous préférez. Il possédait un secret. Un secret tellement incroyable que lorsque je vous le révélerai, vous ne me croirez pas. Et pourtant, Corentin connaissait le langage des objets.
11 histoires à travers lesquelles et dans lesquelles perle ce souvenir qu'on a tous et toutes d'une forme d'insouciance enfantine. 11 contes progressifs pendant lesquels Corentin va grandir et se construire avec des objets donc qui parlent, des histoires que Michel Bussy portait en lui depuis son adolescence.
Ces contes du réveil matin, je les porte en moi depuis toujours, depuis l'adolescence. Quand on met en scène un petit garçon qui parle aux objets, il y a quelque chose qui renvoie quand même à la solitude, il y a quelque chose qui renvoie à l'imaginaire, c'est-à-dire évidemment, on ne sait jamais si Corentin rêve ou si c'est en quelque sorte une vérité. Ce que j'aimais bien dans cette histoire d'objets qui parlent, c'est que finalement, on a un quotidien qui peut être un quotidien ordinaire, triste, banal, et qu'en fait, en faisant parler les objets, n'importe quel événement quotidien peut devenir extraordinaire.
Dans ces objets du quotidien, il y a des fleurs, un champ de fleurs, dans un trou de verdure où chante une rivière, une vallée, les larmes, le jour où Corentin découvre que même les plus belles choses de la vie sont éphémères, réflexion sur le temps qui passe. Il y a Rosalie, la vieille dodoche, folle amoureuse de son propriétaire David. Rosalie dont la vie bascule le jour où David rencontre Florence, parce qu'elle est de chair et d'os, et on sait que les filles n'aiment pas trop les voitures. Il y a un grain de sable orgueilleux qui croit tout savoir de la vie, de l'amour. L'amour, justement, avec un conte hilarant sur des boîtes aux lettres, doué de paroles, sorte de concentration de bignoles, de concierges qui se nourrissent et qui nourrissent leur conversation avec les lettres qui passent dans leur ventre de métal. Il y a surtout un petit garçon qui grandit et bascule peu à peu dans le monde de l'adolescence et l'âge adulte. C'est une vaste réflexion sur l'enfance, sur ces enfants qui finalement parviennent plus à échanger avec leurs jouets qu'avec des adultes. Michel Bussy.
Oui, je pense que c'est un petit peu moi dans le sens où il donne très peu de clés sur lui-même. C'est-à-dire, c'était une question qu'on s'était posée. C'est vrai que normalement, quand on fait un récit pour enfants, on va raconter la vie de cet enfant, donc on va beaucoup savoir de choses sur sa vie. Et au sens où Corentin dit peu de choses de lui-même, eh bien, je pense que c'est un petit peu moi dans ce sens-là. C'est-à-dire, Corentin va raconter un certain nombre d'aventures. Et il y a même des contes où il est plus spectateur que réellement acteur.
Ce sont des contes et pourtant ça se lit comme un roman. C'est un condensé de poésie et d'humour. Et comme dit l'auteur au début de ce livre, avec tous ces gens qui vivent seuls dans leur maison, s'ils ne causent plus à quelqu'un, ils causent forcément à quelque chose.
Ben oui.
Et Corentin, lui, donc, parlait donc à des objets.
Et tout cela s'appelle donc Les Contes du Réveil Matin aux éditions Delcourt. Le prix
24,90€, plus de 300 pages à livre, magnifiquement illustré par Éric Puybarré. C'est un artiste qui travaille à l'ancienne. Une toile, un pinceau, des couleurs. C'est ma potion du lundi pour raviver cette petite part d'enfance qui est en vous, qui est en nous.
Merci beaucoup Laurent Marsic, on a passé un bien agréable moment. Dans quelques instants, notre week-end télévisé et surtout les nouveautés ce soir à la télé avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Et nous commençons, Isabelle Morelli-Bosc, avec les audiences de notre week-end télévisé Médiamétrie.
Bien sûr, vendredi, foot d'abord, foot encore. 6 500 000 fanas devant le match Pays-Bas-France sur TF1. Le deuxième en rassemble 3 830 000 de moins. C'est la rediff du polar Mon frère bien-aimé sur la 2. Samedi, situation inversée. Le commissaire Magellan de la 3 est en tête. Près de 4 400 000 téléspectateurs devant Danse avec les stars qui en séduit tout de même 4 100 000. Quant ailleurs, Independence Day, forcément, est largement en tête, mais record d'audience pour Zone Interdite. Autre gagnant du week-end, Balance ton poste vendredi soir sur C8, le 7 à 8 de TF1 hier avec David Hallyday, et bien sûr le journal télévisé, plus de 7 100 000 téléspectateurs sur la une avec Édouard Philippe, mais tout de même 21 millions de Français ont suivi la tranche d'info globalement parlant.
Sur la 2,
Édouard Philippe sur la 2, 6 700 000 sur la 2.
Alors, ce soir, à la télévision, on note d'abord une nouveauté d'aventure, ça c'est sur la 3.
Oui, deux familles se lancent à l'assaut du Mont Blanc, écoutons le préambule de la présentatrice Fanny Agostini.
Bonsoir à tous, je suis exactement à 3542 mètres d'altitude. C'est le sommet de l'Aiguille du Tour, l'un des sommets les plus emblématiques du massif du Mont Blanc. Et c'est exactement ici que nos deux cordées, composées de deux familles qui n'ont jamais fait d'alpinisme avant, vont terminer une course vertigineuse.
Oui, il y a des guides, tout de même. Ils doivent doublement prendre de la hauteur en résolvant diverses épreuves, comme trouver un oiseau tétralyre. Les audiences vont-elles grimper également? C'est compliqué, terrain glissant, forcément.
Alors oui, d'autant plus que TF1 propose la dernière saison de La Famille Formidable, feuilleton suivi par plusieurs générations de téléspectateurs depuis 26 ans.
Exactement, 26 ans, bravo. 26 ans, 15 saisons seulement. Cette fiction signée Joël Santoni, qui a disparu en avril dernier, revenant d'abord tous les deux ans. Alors je vous fais le pitch et le speech. Jacques Beaumont est devenu un auteur à succès. Pour s'occuper, sa femme Catherine Annie Dupéré va voir ses enfants éparpillés partout dans le monde et découvre une liberté nouvelle pour elle. Or donc, au retour, elle veut divorcer. C'est le coup de massue pour lui. Il refuse et il bataille jusque dans le lit conjugal où forcément il est dans de beaux draps.
Tu sais ce qu'on va faire ? On va bien dormir. Et puis demain matin, en se réveillant, on va considérer que toute cette journée c'était un cauchemar. Et puis on va tout recommencer comme avant, d'accord ?
Mais Jacques, c'est pas un cauchemar, voyons. Bon, je conçois que c'est brutal, mais qu'est-ce que tu veux ? C'est la vie.
Ça c'est la vie, c'est pas notre vie. Je t'aime, Catherine.
Ah, mais moi aussi je t'aime. Je t'aime profondément. Mais tu vois, notre amour va le vivre différemment. Et c'est sans doute une chance.
Je porte ma coup de bol, ouais.
Allez, bonne nuit.
Je suppose que pour les câlins, c'est un peu aussi.
Oh, dis donc, les câlins. On n'en parle plus depuis belle lurette, hein. Ça fait quand même un paquet de temps que la guinguette a fermé ses volets.
Voilà. Alors, vous le savez.
Pauvre, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Elle est folle ou quoi ?
Non. Elle s'est toujours occupée des autres. Elle a décidé de s'occuper d'elle-même. Beaucoup de femmes font ça, vous le savez. Et vous savez aussi, Bernard Lecoq et Annie Dupéré ont décidé d'arrêter cette fiction. Oui. Alors, comme ça, je dis au tandem, c'est notre dernière interview annuelle de début de saison. C'est dingue.
Bah si, c'est comme ça que les choses doivent se terminer pour des raisons essentiellement affectives, quoi. Parce que le papa, le créateur de toute cette belle aventure, c'est Joël Santoni qui nous a quittés il y a quelques mois. Et pendant sa maladie, il a quand même chapeauté cette dernière saison. J'ai pensé qu'il fallait lui conserver ce bébé, quoi. De façon à ce que cette histoire se termine comme on termine un roman qui se boucle, mais qui reste.
Mais moi, depuis que TF1 avait décidé qu'à présent ce serait tous les ans, je me suis dit, ça va pas le faire longtemps parce que on n'a pas le temps. C'était une aventure humaine qui demandait de laisser le temps au temps, de trouver des sujets dont on discutait avant. Et avec cette obligation de faire 6 films de 52 minutes tous les ans, il n'y avait plus le temps d'être en complicité. Je veux dire, les auteurs travaillaient tellement vite pour pondre, vite, pour pouvoir assumer. C'est vrai que je me suis dit, ils vont arriver à nous tuer. Parce que c'est pas tenable sur une chose comme ça.
Alors, c'est pas pour... elle est en train de flinguer son téléfilm. Là, parce que c'est
elle
bizarre,
flingue le rythme.
Ah oui, d'accord.
Alors, c'est pas pour dire, mais justement, je voulais faire remarquer qu'il y en a qui en rêveraient. Que TF1 les fasse travailler à l'année, c'est cadeau, non ?
C'était un très joli cadeau, mais c'est vrai que tout à coup, ça poussait à un forcing. On ne démérite pas du tout ces 4 dernières années, mais surtout sans Joël, je pense que Bernard avait raison. C'est vrai que je m'interdisais d'être celle qui casse à cause d'une presque superstition vis-à-vis de la chance que ça avait été pour nous tous. Je n'osais pas être celle qui dit stop, quoi. Donc je te remercie.
Mais les jeunes ne vous disent pas merci.
Les jeunes, ils vont nous dire merci. Ça va surtout leur donner l'idée que notre métier est effectivement aléatoire, comme beaucoup de métiers, vous me direz, mais enfin, celui-ci, il est basé là-dessus. C'est sain.
C'est vrai qu'une fin peut être une ouverture.
Mais vous n'aviez pas l'air de dire que d'ici 3-4 ans, si vous trouviez une idée de rassemblement,
Non,
mais après, des choses peut-être se proposeront, mais on a envie que les choses qui se proposent, évidemment, aillent dans l'idée qu'on se fait un peu
de ce métier. Voilà, c'est ça.
Ça s'est passé comme ça jusqu'ici, ça peut encore se passer, ça peut aussi s'arrêter, c'est les choses qui arrivent.
Bref, que les jeunes se débrouillent. Et en conclusion, j'ai bien aimé cette saison, eux aussi.
On espère que cette belle saison va plaire aux gens, parce que je souhaite personnellement que la belle histoire se termine sur quelque chose de bon et qui plaise, et voilà.
Et puis alors, on n'en a pas fini avec vous, parce que vous savez que par le système des rediffusions, on va vous revoir à tous les âges.
On va prendre 25 ans de moins, c'est bien, c'est bien.
Voilà.
Ce soir, début de la dernière saison.
21h, 21h ce soir, TF1. Tu sais, j'ai trouvé beaucoup plus intéressante que la précédente saison.
Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque. Dans un instant, notre ami Mozart, avec son ami Charlotte Latour.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous passons à Mozart. Bonjour Charlotte Latour.
Bonjour.
Un vent nouveau souffle sur le classique avec le chef Mathieu Herzog et son ensemble Appassionato. Ils viennent d'enregistrer les trois dernières symphonies de ce cher Wolfgang Amadeus.
Et oui, avant même d'écouter l'album, il y a ce moment où l'on ouvre le disque. Oui, j'écoute encore des CD. Ben je suis désolée pour ça.
Moi aussi.
Ce moment où l'on ouvre l'album, donc, où l'on feuillette le livret. Et là, des dessins, des crayonnés en noir et blanc, de l'orchestre, de Mathieu Herzog, de Mozart. Déjà, le seul contact avec l'objet nous fait dire « Tiens, là, il se passe quelque chose de différent. » Mozart a composé ses trois dernières symphonies en 1788, trois ans avant sa mort à 35 ans. Le chef Mathieu Herzog nous les décrit.
Je trouve vraiment qu'elles ont une force absolument unique et qu'elles sont incomparables avec aucune autre œuvre de Mozart. Il y a une puissance pré-beethovenienne dans ses symphonies. Et quelque part, moi, je vois aussi un Mozart qui est puissant, qui est colossal, qui est un rock. Pas le Mozart parfois un peu fleuri qu'on imagine. Non, là, je vois un homme fort et on a souvent tendance à penser que Mozart est un enfant. Je pense que c'est un adulte qui joue. Et j'aime beaucoup le mystère qu'il y a autour de ces trois dernières symphonies aussi.
Cet album est le premier de l'ensemble Appassionato, fondé il y a 4 ans par Mathieu Herzog. Celui-ci s'est imprégné à 100% de l'œuvre de Mozart. Il a tout lu, tout écouté, il a fait des recherches musicologiques poussées pour livrer une interprétation la plus personnelle possible de ses symphonies 39, 40 et 41. Il nous disait à l'instant être intrigué par le mystère qui entoure ses pièces. En effet, Mozart d'habitude compose une symphonie par an, depuis ses 8 ans, hein, c'est un bon rythme. Mais là, non, elles sont composées en moins de 2 mois et on ne connaît pas les circonstances de leur création. Aucune trace d'une éventuelle commande, pas de date de concert, étrange.
Je suis persuadé qu'il y a quelque chose de franc-maçonnique qui traîne là-dedans, puisqu'il y a 3 symphonies. La première est en mi bémol majeur, comme la flûte enchantée, donc 3 bémols à la clé, donc encore le chiffre 3. La fin, do majeur pour nous les musiciens, c'est Dieu, un peu, c'est le fondement même de tout. Donc en fait, l'idée d'un être suprême, comme il existe dans les loges maçonniques, doit arriver. C'est un des moments où il est le plus dedans. Son père est rentré en franc-maçonnerie juste avant. Il y a quelque chose, il y a plein de symboliques en tout cas qui traînent partout. Ça, c'est ma théorie. Et je pense d'ailleurs que c'est pas une trilogie. Je pense qu'il l'a pensé comme une seule œuvre.
Alors Charlotte, une commande d'un ami franc-maçon, ce ne serait pas la première fois que Mozart nous ferait le coup.
Hein. Mais oui, Mathieu Herzog en parlait à l'instant, ça s'était déjà produit pour son opéra La Flûte Enchantée. Dans ces 3 symphonies, en tout cas, Herzog apporte sa patte en jouant sur instruments modernes. Ça donne plus de projection au son, plus de force, plus de poids. Et puis il a aussi opté pour un tempo bien à lui.
Par exemple, les menuets que j'ai, les tempos des menuets que j'ai choisis sont extrêmement rapides. C'est évident que je vais me faire allumer parce que c'est trop vite. Mais c'est parce que je pense que Mozart, au 21e siècle, aurait dit, bon, arrêtez un peu avec ces menuets. Il est temps de se bouger un peu. Ça a changé. La vie a changé. De toute façon, on danse plus. Donc, allons plus loin. Mozart va continuer à évoluer. Car, comme tous les grands génies, il était tellement en avance sur son temps qu'aujourd'hui, il a encore de belles années devant lui.
Symphonie numéro 40. Vous l'avez bien dans l'oreille ?
Oui, oui.
Parce que là, je vais vous faire entendre une autre version. Voici le Philharmonique de Berlin, dirigé par Maestro Karl Böhm. C'était en 62. Rien à voir.
Non, c'est pas aussi joli. C'est pas mal pour défiler ou pas.
Et oui, les temps changent, les tempos aussi. Il n'y a pas de meilleure version, hein, c'est juste une compréhension différente de l'œuvre. Ce qui est sûr, c'est qu'Appassionato, le bien nommé, joue avec passion. Voilà enfin une version novatrice, fondée sur une approche fouillée, et puis largement discutée aussi entre le chef et l'ensemble, dans un échange qui se veut démocratique. Mathieu Herzog est un homme chaleureux et inspiré, qui se moque du qu'en dira-t-on. Il dirige un ensemble où les musiciens sont épanouis et heureux. Leur premier album est abouti, poignant, nuancé. On leur en souhaite encore beaucoup d'autres. Les trois dernières symphonies de Mozart par Mathieu Herzog et Appassionato, album coup de cœur paru chez Naïve.
Après Mozart, on se tait.
Passez une bonne matinée avec RTL.
La suite de vos programmes dans un instant. Nous ne sommes pas touchés par une grande grève, je vous rassure. Et on avait envie de réentendre un petit coup de notre ami Momo, qui est très en forme. En tout cas, dans cette version que nous a fait découvrir ce matin Charlotte Latour. Merci à toute l'équipe. Bernard,
vous
savez, un rendez-vous.
Disait Sacha Guitry que le silence après Mozart, c'est encore du Mozart.
C'est encore du Mozart. J'aurais mieux fait de me taire, alors. C'est une bonne chose. Allez, on va tout de suite retrouver Julien Courbet.
Je pense qu'il disait ça pour moi. Et ah c'est bon, pas très sympa,
pas,
oui.
Pas du tout,
je voulais en dire. Après ce morceau-là, dire qu'on va être obligé de se taper la grande saucisse qui va encore nous emmerder pendant une heure et demie, alors qu'on aurait pu laisser du Mozart ou du silence, c'est comme ça, personnellement, que je l'ai compris.
Ah, c'est vrai? Non, non, oui, oui, non, mais non, une belle non, saucisse.
Non, je...
Dis donc. Il paraît.
Mais il se trouve que j'habite à Meurthot. Donc, allez, on va se retrouver demain matin après. Bah, écoutez, la semaine démarre bien, en tout cas. Au niveau passage d'antenne, je trouve qu'on a repris un peu le dessus.
Oui, 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 c'est bon, là, on est.
On s'était un peu laissé aller, mais là, ça y est, on
vous
est revenu.
Vous portez des lentilles ?
Oui, très bien. Les lentilles, la saucisse de Meurthot, oh là là, bon, c'est magnifique.
On a fait un tour complet. On vous laisse reprendre les choses en main.
Plus, ça serait abusé. Merci.
Salut,
à demain matin.
Émission.
Vous écoutez RTL.